Le chemin des transitions. Denis et...
Bonjour à toutes et à tous. La clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. L'émission qui chaque semaine vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Bonne nouvelle, l'été revenu, le chemin de notre invité nous amène au bord de l'eau, plus précisément au bord des rivières de nos belles contrées. Alors équipez-vous pour une descente de rivière, nous embarquons avec la pagaie sauvage. Même si Lise Durantoux ici présente m'a plutôt l'air d'une joyeuse civilisée que d'une pagaie sauvage. Allez, c'est une blague. Lise, coordinatrice des activités de l'association, nous propose de rendre utiles nos balades sur l'eau et au bord de l'eau. La pagaie sauvage était à l'origine un bloc de pagayeurs, déjà un peu écolo et en tout cas respectueux des rivières, qui, alertés par les déchets qu'ils rencontraient lors de leur pérégrination aquatique, ont décidé de passer à l'action. Comment se rendre utile pour lutter contre la pollution croissante de nos cours d'eau, qui, rappelons-le encore une fois, entraîne tous les déchets qu'ils charrient vers les mers du globe? Nous avons déjà reçu des ramasseurs de déchets qui contribuent à amoindrir le phénomène, mais la pagaie sauvage veut aller plus loin. Une fois les vilaines bouteilles, les affreux sacs jetables ou horribles roues de vélo ramassées dans la rivière, il subsiste une pollution bien plus pernicieuse, puisque invisible à l'œil nu, les microplastiques. Et nos joyeux pagayeurs de se mettre à l'œuvre pour collecter ça et là des échantillons pour les soumettre à des analyses scientifiques, établir une cartographie des sites en danger et partager ses connaissances. Parce qu'en plus de se décarcasser pour sauver les rivières, ils partagent leur savoir et même leurs outils.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Lise.
Bonjour.
Alors, si chacun peut ramasser et éliminer les déchets, voire même prélever des échantillons d'eau de rivière, les analyses scientifiques et leur interprétation, ce n'est pas à la portée de tous. Bon, en tout cas, pas de moi. Quel impact vous voulez avoir sur la population à travers ce type d'action ?
Alors, ce n'est pas à la portée de tous, oui et non. Effectivement, les prélèvements sont rendus un petit peu dans les mains des citoyens et de façon assez claire. Ce qui est un petit peu moins clair, mais qui est quand même présent, c'est la participation au débat et à la réflexion qu'il y a une fois les analyses faites, les résultats produits. On invite toujours les citoyens à participer à la réflexion et au cheminement qui fait qu'on publie des rapports après sur... notre site internet, qui sont rendus publics, et ce n'est pas juste des scientifiques qui écrivent, loin de là.
D'accord. Alors, comment on procède? Si moi, demain, je veux soumettre à vos travaux une rivière près de chez moi, comment ça se passe?
Bon, alors, à ce moment-là, c'est que vous avez atterri à un moment donné sur le site internet ou qu'on s'est croisé quelque part. Et à partir de là, je vous invite à fabriquer un baby legs, donc un dispositif d'échantillonnage qui est composé d'une bouteille d'eau et d'un collant de bébé. Vous allez faire votre prélèvement, m'envoyer en fait le collant à l'université. L'analyse va se faire comme ça, sans que vous vous en aperceviez. Et après, je reviens vers vous avec les résultats et on en discute en fonction de voilà jusqu'où vous voulez aller. Voilà, votre investissement personnel, c'est-à-dire est-ce que vous voulez réitérer l'opération? Est-ce que vous voulez en parler? Ça peut être juste un prélèvement comme ça, sur le vif, dont on n'entend plus jamais parler après, mais ça peut être aussi un suivi. Et c'est ça qui nous intéresse le plus.
Le suivi.
Oui, si vous commencez quelque part, je vous inciterai à faire un suivi.
Ah oui, alors si par exemple je trouve vous trouvez des microplastiques, c'est ce que vous recherchez principalement, c'est ça hein?
À nous, c'est que les microplastiques même.
Alors, si on retrouve des microplastiques dans la rivière qui passe en bas de chez moi, bon, il n'y en a pas, hein, je vous rassure, à part la Garonne, eh bien, je me dis que le suivi pourrait être d'essayer de trouver l'origine, par exemple, de ces microplastiques.
Ben oui, ça serait intéressant. Alors, une donnée comme ça, sur le vif, ne veut à peu près rien dire parce qu'on trouve quasiment systématiquement du microplastique dans les prélèvements. Par contre, une idée de suivi derrière, en fonction des saisons, en fonction du temps qu'il a fait, là, ça peut rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Donc forcément, une fois que quelqu'un a le prélevé, je lui demande de recommencer une petite fois et voir après si on peut... Généralement, ça marche mieux avec un groupe de personnes. Souvent,
d'accord.
C'est des ramasseurs de déchets aussi. Ils sont déjà investis sur le terrain. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi d'autres associations. Ou d'autres groupes de personnes comme ça, assez spontanées en fait, même des professionnels qui ont envie de savoir un peu plus en fait à ce sujet-là.
Oui, bon, par exemple, nous avons reçu ici il y a quelque temps les Plastic Fighters, qui organisent des grands ramassages alors sur les plages, dans les bois, etc. Mais pourquoi pas les orienter vers les forêts avec la possibilité de vous envoyer des échantillons ?
Ah mais carrément.
Ça serait donc quelque part une amorce de suivi, puisque effectivement ces gens-là vont dans... Enfin en tout cas, au moins de source de beaucoup de produits à analyser, hein, parce qu'ils vont partout, ils organisent régulièrement des ramassages. Oui, est-ce que vous avez des partenariats comme ça engagés avec...
On en a pas mal. On en a pas mal, et sur toute la France, en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'on arrive à suivre plusieurs rivières en même temps, en fait, grâce à ça. Donc il peut y avoir ces associations-là de ramassage de déchets. On a Champ d'Action, par exemple, qui depuis 2017, sur la Garonne à Toulouse, va prélever à chaque ramassage de déchets. Et c'est un investissement qui n'est pas anodin, en fait, hein, parce qu'on a un suivi depuis 2017, en fait. Grâce à eux. Et puis après, il peut y avoir, par volonté, comme ça, une institution qui se déclare, vouloir suivre les microplastiques dans sa rivière. Alors ça a été le cas de l'EPAB, par exemple, l'établissement public dans la baie de Douarnenez, celui qui s'occupe de ce qu'on appelle les sages, en fait.
D'accord.
Vous voyez de quoi je parle ?
Et non, pas tout à fait. Donc c'est un établissement public qui suit le...
Ce sont eux qui gèrent, ce sont des gestionnaires de bassins versants.
D'accord.
Donc en fait,
ah, oui.
Il y a les techniciens rivières, il y a ceux qui travaillent pour la qualité de l'eau au quotidien, avec les élus. Et en fait, eux, des fois, veulent aller plus loin dans ce sens-là. Donc il y a eux, par exemple, mais il y a aussi par exemple, la rivière que vous connaissez certainement, la Leyre, qui n'est pas très loin d'ici. On a un groupe de professionnels qui s'est monté là avec pas des ostréiculteurs, mais des pisciculteurs, des agriculteurs, des gens qui travaillent sur l'autoroute. Tout un tas de gens qui sont venus nous filer un coup de main, en fait, pour essayer de suivre en particulier cette rivière-là.
Oui, qui est une vraie merveille, pour l'avoir parcouru un petit peu en canoë, je sais de quoi il s'agit. Alors donc, le message pour les auditeurs, c'est réunissez vos copains avec qui vous avez l'habitude de vous promener au bord de la rivière et ramassez de l'eau pour la pagaie sauvage, et ils vous donneront des résultats très intéressants.
Falling apart, and the money has gotten scarce. One man.
c'était Roger Daltrey, c'est In Ain't So.
Le chemin des transitions. Denis et.
J'ai le plaisir, comme vous, d'être en compagnie de Lise Durantou, qui est la coordinatrice de la Pagaie Sauvage, donc qui, comme nous l'avons vu dans la première partie, est une association qui s'occupe de recueillir des prélèvements dans les rivières et même d'en organiser et de les analyser et de voir avec les préleveurs les suites qu'on peut donner sur leur site, les conséquences qu'il y a de ce qu'ils ramassent. Comment ça s'organise depuis le départ, Lise, coordinatrice, elle devrait savoir, hein. Elle s'occupe de tout.
Oui, oui, depuis le départ. Depuis le départ, on a un pied en fait dans la science et un pied dans le milieu associatif.
Et un autre dans la rivière. Alors ça, vous fait trois pieds, ça. Alors,
trois pieds, c'est tout à fait possible, mais d'autres pieds d'ailleurs. Voilà, donc ça s'organise avec l'université. Là, on travaille avec l'université de Pau et des Pays de la Dour. On a travaillé avec d'autres universités aussi. On travaille parfois avec l'université de Bordeaux aussi. Tout ça pour dire qu'on travaille avec des chercheurs.
D'accord. Et vous, en fait, finalement, vous leur amenez, entre guillemets, du grain à moudre.
Quelque part, oui.
Et pas de l'eau à boire. Hein.
Non, c'est ça. Ils nous en font moudre aussi. Et l'autre pied qu'on a dans l'associatif, qui est vraiment notre base en fait, puisqu'on est une association collégiale qui réunit donc à la base un groupe de copains, comme vous l'avez dit, oui. Qui parcouraient en canoë les rivières, et puis jusqu'à s'organiser pour effectivement proposer à d'autres personnes et à ouvrir à d'autres personnes en fait la possibilité de faire des prélèvements et de s'intéresser à cette pollution-là. Donc ça veut dire qu'on a aussi une flotte de bénévoles à travers la France, comme je vous avais dit, à travers toutes ces structures et ces individus qui s'investissent avec nous. Et donc ça fait aussi que, ben, au fur et à mesure, il y a des partenariats techniques un peu à droite à gauche qui fait qu'il y a un dialogue qui se fait. C'est ça, la médiation scientifique, quelque part, c'est de parler avec les uns qui sont dans leur labo et puis avec les autres qui sont dehors et d'essayer de faire quelque chose de tout ça, en fait.
D'accord. Bon, alors, on a vu le déclic. Après, comment vous avez réussi, au départ, à vous organiser, à faire que les universités s'investissent derrière vous, etc. C'était convaincant dès le départ ou il y a eu des difficultés pour mettre ça en place?
Non, il n'y a pas du tout eu de difficultés. On est parti, nous, de l'idée de Max Liboiron, qui est une chercheuse carrément pirate de ce côté-là, qui travaille au Québec, dans l'université de Terre-Neuve. Et donc, elle proposait déjà, à travers ce dispositif-là, donc du Baby Leg, c'est elle qui l'a monté, qui l'a proposé à ses bénévoles de son côté.
Donc le Baby Leg, c'est la bouteille d'eau et le...
C'est bien ça.
Et un bas
de bébé.
Et un bas de bébé.
C'est mieux, oui.
Pas un bas nylon
Si, c'est possible aussi. Bah, tout est possible, mais on préfère effectivement rester sur un bas de bébé. C'est quand même plus facile après à décortiquer qu'un bas qui mesure 2 mètres de long.
D'accord.
Donc on est parti de là, on a pris contact avec elle. Elle a fait les premières analyses avec nous. Qu'on comprenne bien. Alors après, comme on était un peu du milieu scientifique, ça nous posait aucun problème de compréhension. Et après, y a un chercheur en Auvergne qui nous a dit « Hey, ça m'intéresse ce que vous faites ». Donc au départ, c'était en Auvergne qu'on allait pour discuter de tout ça, avec la première descente qu'on a fait, donc Néry, qui était une intégrale de la Garonne, pour aller sonder justement celle qui passe juste à côté de nous, là. Et après, l'Auvergne, c'est un peu loin malgré tout. Donc, on a pris le relais avec l'université de Pau et des Pays de la Dour.
Oui, j'ai regardé la carte sur votre site internet. On voit qu'il y a quand même un net favoritisme pour le Sud-Ouest.
Il y a un ancrage.
ça, c'est la proximité qui facilite. Mais libre à chacun d'organiser des prélèvements réguliers dans sa région, dans la rivière de son cœur. Et alors là, pour les expéditions, il faut d'abord le mode de prélèvement. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment on procède?
Alors, comment on procède pour le prélèvement? On se prend une petite demi-heure devant soi. Donc, après avoir fabriqué le dispositif, là, il faut avoir donc une bouteille d'eau assez grande. On préfère celle de 5 litres parce qu'on connaît le volume qui passe dedans. On y accroche un collant avec un collier de serrage qui tient bien, bien, bien. Et avec une corde ou à la main, en fonction du débit de la rivière, on s'adapte. On fait passer l'eau dans la bouteille. Et donc, l'eau est filtrée par le même collant. On attend 30 minutes. 30 minutes qui correspondent à un volume filtré assez intéressant pour nous. Donc ça fait, voilà, comme ça. On sait combien à peu près on a filtré, hein, si vous nous dites exactement dans le questionnaire, puisqu'il y a un questionnaire en ligne à remplir, avec la durée, le courant que vous avez estimé, vous mettez cette méthode de calcul de courant. On arrive à déterminer donc, la concentration des particules qu'on a retrouvées dans votre prélèvement à ce moment-là.
D'accord. Il y a un mode d'emploi sur le site ? Je l'ai pas vu.
Oui.
Ah, je sais pas.
Il y en a un. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre.
D'accord. Donc, ça, c'est important. Le site, c'est lapagaisesauvages.org.
Oui.
C'est ça. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut espérer des conséquences sur le comportement des riverains de la rivière ou des réactions des autorités par rapport aux analyses que vous faites et aux résultats ? Voilà, il y a des conséquences qu'il faut en tirer.
Bah, pouvoir en espérer, nous on en espère. Ça c'est sûr qu'on ne fait pas ça juste pour créer de la donnée. Puisqu'en fait, c'est un sujet qui touche pas mal de personnes, des personnes qui sont exposées littéralement à cette pollution-là. Et derrière, c'est de pouvoir faire évoluer des pratiques, évidemment. Ceux qui prélèvent, en général, sont assez concernés pour justement en parler autour d'eux et transformer un petit peu un mode de vie en fonction du résultat, évidemment, qu'on communique, sachant qu'il y a quand même une grande part de la France qui est touchée par cette pollution-là, par des fragments de plastique et qui sont dus, évidemment, aux déchets, aux emballages, comme on peut se douter. Après, il y a des petites notes qui sont différentes.
Alors, est-ce qu'on peut, je dirais, faire, entre guillemets, un hit parade des mauvais comportements qui font qu'on trouve beaucoup de microplastiques dans nos rivières?
J'imagine qu'on s'en doute un peu, mais voilà, je vais vous le dire, il ne faut pas jeter un déchet par terre.
Pas de déchets par terre et encore moins dans la rivière.
Après, il se fragmente et c'est comme ça que il disparaît sans disparaître quelque part, parce qu'il est juste fragmenté en milliards de particules, mais le déchet, il existera toujours.
D'accord, c'est-à-dire que alors, quand on dit qu'il faut je ne sais plus combien de centaines d'années pour qu'une bouteille d'eau soit détruite, recyclée par la nature, en fait c'est faux.
Recyclée par la nature, non.
Non, jamais.
Non, le plastique il sera là sous forme de nanoparticules, on ne le verra plus.
On ne le voit plus.
On sera incapable de le tracer. Par contre, c'est une matière qui est quand même d'origine fossile, donc ça ne va pas se dégrader comme ça. Et puis ce n'est pas ça le plus important en soi. C'est plutôt tout ce que ça va capter pendant son cheminement et aussi tous les produits chimiques qui composaient déjà ce plastique-là, à savoir les plastifiants, mais vous connaissez certainement les phtalates, etc.
Oui, enfin, dire que je les connais, j'ai pas leur 06, mais je vois à peu près ce que c'est. Alors, ça, c'est principalement le comportement individuel qui fait qu'on pollue les rivières avec des plastiques.
Oui, après, est-ce qu'on peut parler de comportements horribles ? Des fois, on ne s'en rend pas très compte. Par exemple, sur les fibres textiles qui abondent dans les prélèvements microplastiques. Généralement, on ne sait pas que quand on fait une machine à laver, c'est des milliers, des millions de fibres qui partent à ce moment-là.
Oui, surtout depuis qu'on a des polaires, là, c'est ça ?
Des polaires synthétiques avec ce prêt à jeter qu'on porte au quotidien et au final, qu'on lave un peu sévèrement... qui prend soin de son linge aujourd'hui et qui, en fait, se disperse dans l'eau. Les stations d'épuration, elles n'avaient pas cette capacité-là aussi de filtrer aussi petit. Donc voilà, ça, c'est un genre de pollution. C'est pas horrible à le faire, mais en réalité, ça a une grosse conséquence.
Bien. On verra après une chanson pour se détendre un peu quand même, parce que là, vous nous mettez la pression. Où est-ce qu'on peut en trouver ? Beaucoup, ou est-ce qu'on peut en trouver moins?
Those days are over. You don't have to sell your body.
Tout le monde a reconnu Police, Roxane.
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Je suis en compagnie de Lise Durantoux, qui représente ici la Pagaie Sauvage, une association qui se propose d'analyser les prélèvements que vous pourriez faire en rivière pour déterminer la quantité de microplastiques qu'ils contiennent. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu le début, à vous rendre sur le site internet de la Clé des Ondes pour écouter, bien sûr, l'émission en entier, parce que c'est très intéressant. Alors, Lise, il nous reste quelques minutes, quatre. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avoir des exemples un petit peu significatifs, à commencer par, et ça, c'est le plus facile, l'eau du robinet, l'eau en bouteille. Annoncez les scores.
Ça, c'est une question qui revient souvent parce qu'on se la pose très régulièrement. Alors, même ceux pour qui n'achètent pas de bouteilles en plastique sont amenés à boire à un moment donné dans un truc en plastique. Donc, ces personnes-là, évidemment, sont exposées un petit peu plus à cette matière-là. Et y a des études qui ont été faites, bien sûr, pour y répondre. Donc, on différencie donc, ceux qui boivent l'eau en bouteille, environ 130 000 particules par année qui sont ingérées, contre 4 000 pour les personnes qui ont l'habitude de boire de l'eau du robinet. Donc avec un contenant qui est différent à ce moment-là.
D'accord. Donc c'est 30 fois plus, 300 fois plus.
C'est ça. Et en moyenne, un être humain sur Terre consomme 5 grammes de plastique par semaine, soit une carte de crédit, sans s'en apercevoir. On le respire aussi, ce microplastique-là. Je vous parlais des fibres, elles ne sont pas que dans l'eau, elles sont aussi dans l'air.
Je pensais qu'il n'y avait que les distributeurs automatiques qui mangeaient des cartes de crédit.
Et non, nous aussi, avec un retour dans l'assiette aussi, par les poissons qu'on mange, les animaux, la nature, tout ça, qu'on la consomme quelque part. Et donc, elle nous renvoie un petit peu la balle à ce niveau-là.
Oui, parce qu'on peut supposer que il y en a aussi les vaches, les moutons, les poules, les poissons en consomment, contiennent des microplastiques, comme nous.
Le ver de terre aussi.
Voilà. Et même l'épi de blé.
Le monde.
Ouais, tout le monde, partout. Il y en a de partout.
On est tous égaux.
Alors, pour encore, est-ce qu'il y a un petit exemple, bon élève, mauvais élève, entre la rivière où il y en a le moins, la rivière où il y en a le plus? Vous avez ça?
Oui.
Et plein de notes, là.
Oui, oui. C'est difficile à dire, mauvais élève, bons élèves, parce que donner la leçon, c'est jamais évident. Et puis, on n'est pas là pour ça. Mais effectivement, il y a des différences entre les fleuves. Sur l'Adour, on est à 0,2 particules par mètre cube environ. En baie de Douarnenez, on est à 0,8. Voilà, avec tous les petits affluents qui sont additionnés. Dans le Rhin, on est à 20.
Ah oui. Ouais. Et donc, ça vient uniquement de la pollution des citoyens des lambda ou c'est l'industrie là peut-être qui est en cause sur le Rhin.
L'industrie quelque part c'est nous. Mmh. Mais oui, il y a aussi des déchets industriels. On n'en retrouve pas tant que ça chez nous dans le sud-ouest. On en retrouve pas mal dans l'est de ces petites. Vous savez en fait la plasturgie utilise des petits granules. Bon, on peut les retrouver aussi ceux-là. Mais chez nous, pas trop. Par contre, le Saïgon, par exemple, pour continuer la comparaison, c'est 220 particules par mètre cube.
D'accord, et donc ça, c'est au Vietnam.
Oui, voilà. Et après, dans les 10 grands fleuves qui rejettent le plus de microplastiques, il y en a 8 qui sont en Asie. Et en moyenne, sur la totalité de la Terre, on a 85 sacs plastiques qui s'évadent comme ça par an et par personne. Donc, c'est une grosse moyenne, mais chacun, quelque part, y apporte un peu... son petit morceau de plastique, à sa façon.
Bon, alors chacun doit y faire attention. 45 secondes pour nous édicter les bons comportements ou les mauvaises habitudes à enterrer.
Bon, c'est pas facile, hein, mais des bons comportements, c'est faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme, à ce qu'on porte comme vêtements, à ce qu'on utilise comme cosmétique. Je vais pas parler des microbilles, mais ça paraît évident de regarder aussi dans la composition des dentifrices et des savons, s'il n'y a pas du plastique dedans, parce que c'est un peu la même chanson. Et tout simplement, en fait, faire gaffe à tout ça et en prendre conscience. Juste parce que, après, le chemin, il se fait un peu tout seul.
D'accord. Donc, si chacun fait attention à acheter... Alors, c'est quand même difficile, voire impossible, de ne pas acheter de plastique du tout. Mmh. Hein, enfin, il y en a qui font des records et des films avec ça, mais globalement, un mot d'ordre pour aujourd'hui, bannissez le plastique de vos achats. Et voilà, c'est déjà fini le chemin des transitions pour aujourd'hui. Alors, nous étions en compagnie de Lise Durantoux, coordinatrice des activités et de la vie associative de la Pagaie Sauvage. La Pagaie Sauvage, je le rappelle, une association qui vous propose d'analyser l'eau de vos rivières. Et bon, on peut éventuellement organiser des ramassages, mais faites-le entre vous et allez sur le site lapagaiesauvage.org et là, vous aurez le mode d'emploi et comment faire et où vous adresser. Bien sûr, toutes ces informations seront sur le site de la Clé des Ondes. Allez, c'était le chemin des transitions, une émission produite par Dynamo, Dynamo EAU à la fin, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas. Retrouvez-nous sur dynamo.org ou bien sûr sur laclédesondes.fr. Merci à Alain, à la table de mixage, à Xavier, le grand Manitou et à Baptiste, son indispensable homme à tout faire. Place maintenant à Point Chaud si l'actualité le justifie, puis à la tribune pour entendre ce qui ne se dit pas ailleurs et passer une belle soirée sur la Clé des Ondes avec de la musique non formatée. Et si vous écoutez la rediff, eh ben bon voyage à destination du Portugal. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine.